Madame Graslin écoutait sans répondre. Il y eut un moment de silence. Le petit champion, jaloux d'amuser sa maîtresse, voulut dire ce qu'il savait de Farabèche. Il faut aussi dire à madame tout ce qui en est. Farabèche n'a pas son pareil à la course, ni à cheval. Il tue un bœuf d'un coup de poing. Il porte 700. Dah ! Personne ne tire mieux que lui. Quand j'étais petit, on me racontait les aventures de Farabèche. Un jour, il est surpris avec 3 de ses compagnons. Ils se battent. Bien. 2 sont blessés et le 3e meurt. Bon. Farabèche se voit pris. Bah, il saute sur le cheval d'un gendarme. En croupe, derrière l'homme, pique le cheval qui s'emporte. Le met au grand galop et disparaît en tenant le gendarme à bras-le-corps. Il le serrait si fort qu'à une certaine distance, il a pu le jeter à terre, rester seul sur le cheval, et il s'évada maître du cheval. Et il a eu le toupet de l'aller vendre à 10 lieues au-delà de Limoges. De ce coup, il resta pendant 3 mois caché et introuvable. On avait promis 100 louis à celui qui le livrerait. Une autre fois, dit Colorat, à propos des 100 louis promis pour lui par le préfet de Tulle, il les fit gagner à un de ses cousins, Giriex de Vizet. Son cousin le dénonça et eut l'air de le livrer. Oh, il le livra! Les gendarmes étaient bien heureux de le mener à Tulle, mais il n'alla pas loin. On fut obligé de l'enfermer dans la prison de Lubersac, d'où il s'évada pendant la première nuit, en profitant d'une percée qui avait faite un de ses complices, un nommé Gabilot, un déserteur du 17e, exécuté à Tulle, et qui fut transféré avant la nuit où il comptait se sauver. Ces aventures donnaient à Farabèche une fameuse couleur. La troupe avait ses affidés, vous comprenez. D'ailleurs, on les aimait, les chauffeurs. Adam, ces gens n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Chacun de ces gaillards dépensait royalement son argent. Figurez-vous, madame. Un soir, Farabèche est poursuivi par des gendarmes, n'est-ce pas? Eh bien, il leur a échappé, cette fois, en restant pendant 24 heures dans la mare d'une ferme. Il respirait de l'air par un tuyau de paille à fleur du fumier. Qu'est-ce que c'était que ce petit désagrément? Pour lui, qui a passé des nuits au fin sommet des arbres, où les moineaux se tiennent à peine, en voyant les soldats qui le cherchaient, passant et repassant sous lui. Farabèche a été l'un de 5 à 6 chauffeurs que la justice n'a pas pu prendre. Mais, comme il était du pays et par force avec eux, enfin il n'avait fui que pour éviter la conscription. Les femmes étaient pour lui, et c'est beaucoup. Ainsi Farabèche a bien certainement tué plusieurs hommes, dit encore madame Graslin. Certainement, reprit Colorat. Il a même, dit-on, tué le voyageur qui était dans la malle, en 1812. Mais le courrier, le postillon, les seuls témoins qui pussent le reconnaître, étaient morts lors de son jugement. Pour le voler, dit madame Graslin. Oh, ils ont tout pris. Mais les 25 000 francs qu'ils ont trouvés étaient au gouvernement. Madame Graslin chemina silencieusement pendant 1 lieue. Le soleil était couché, la lune éclairait la plaine grise. Il semblait alors que ce fût la pleine mer. Il y eut un moment où Champion et Colorat regardèrent madame Graslin, dont le profond silence les inquiétait. Ils éprouvèrent une violente sensation en lui voyant sur les joues 2 traces brillantes, produites par d'abondantes larmes. Elle avait les yeux rouges et remplis de pleurs qui tombaient goutte à goutte. « Oh, madame, dit Colorat, ne le plaignez pas. Le gars a eu du bon temps. Il a eu de jolies maîtresses. Et maintenant, quoique sous la surveillance de la haute police, il est protégé par l'estime et l'amitié de monsieur le curé, car il s'est repenti. Sa conduite au bagne a été des plus exemplaires. Chacun sait qu'il est aussi honnête homme que le plus honnête d'entre nous. Seulement, il est fier. Il ne veut pas s'exposer à recevoir quelques marques de répugnance. Et il vit tranquillement, en faisant du bien à sa manière. Il vous a mis, de l'autre côté de la roche vive, 1 dizaine d'arpents en pépinière. Et il plante dans la forêt. aux places où il aperçoit la chance de faire venir un arbre. Puis il émonde les arbres, il ramasse le bois mort, il fagote et tient le bois à la disposition des pauvres gens. Chaque pauvre, sûr d'avoir du bois tout fait, tout prêt, vient lui en demander, au lieu d'en prendre et de faire du tort à vos bois. En sorte qu'aujourd'hui, s'il chauffe le monde, il leur fait du bien. Farabèche aime votre forêt, il en a soin comme de son bien. Et il vit tout seul, s'écria madame Grasselin qui se hâta d'ajouter les deux derniers mots. Faites excuse, madame. Il prend soin d'un petit garçon qui va sur 15 ans, dit Maurice Champion. Ma foi, oui, dit Colora, car la Curieux a eu cet enfant-là, quelque temps avant que Farabèche se soit livré. C'est son fils, dit madame Grasselin. Mais chacun le pense. Et pourquoi n'a-t-il pas épousé cette fille? Et comment on l'aurait pris? Aussi, quand la Curieuse sut qu'il était condamné, la pauvre fille a-t-elle quitté le pays? Était-elle jolie? Oh, dit Maurice, ma mère prétend qu'elle ressemblait beaucoup, tenez, à une autre fille, qui, elle aussi, a quitté le pays, à Denise Tacheron. Il était aimé, dit madame Grasselin. Bah, parce qu'il chauffait, dit Colora. Les femmes aiment l'extraordinaire. Cependant, rien n'a plus éloigné le pays que cet amour-là. Catherine Curieux vivait sage comme une sainte vierge. Elle passait pour une perle de vertu dans son village, à Visay, un fort bourg de la Corrèze, sur la ligne des deux départements. Son père et sa mère y sont fermiers de messieurs Brézac. La Catherine Curieux avait bien ses 17 ans lors du jugement de Farabèche. Les Farabèche étaient une vieille famille du même pays, qui se sont établis sur les domaines de Montaignac. Ils tenaient la ferme du village. Le père et la mère Farabèche sont morts, mais les trois sœurs à la Curieux sont mariées, une à Aubusson, une à Limoges, une à Saint-Léonard. Croyez-vous que Farabèche sache où est Catherine? Dit madame Grasselin. S'il le savait, il romprait son ban. Oh, il irait. Dès son arrivée, il a fait demander par monsieur Bonnet le petit Curieux, au père et à la mère qui en avaient soin. Monsieur Bonnet le lui a obtenu tout de même. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Bah, dit Colora, cette jeunesse s'est crue perdue. Elle a eu peur de rester dans le pays. Elle est allée à Paris. Et qui fait-elle? Voilà le hic. La chercher là? C'est vouloir trouver une bille dans les cailloux de cette plaine. Colora montrait la plaine de Montaignac, du haut de la rampe par laquelle montait alors madame Grasselin, qui n'était plus qu'à quelques pas de la grille du château. La Sauvia, inquiète, Aline, les gens attendaient là, ne sachant que penser d'une si longue absence. « Eh bien, dit la Sauvia en aidant sa fille à descendre de cheval, tu dois être horriblement fatiguée. »« Non, ma mère, dit madame Grasselin d'une voix si altérée que la Sauvia regarda sa fille et vit alors qu'elle avait beaucoup pleuré. Madame Grasselin rentra chez elle avec Aline, qui avait ses ordres pour tout ce qui concernait sa vie intérieure. Elle s'enferma chez elle sans y admettre sa mère. Et quand la Sauvia voulut y venir, Aline dit à la vieille Auvergnate, « Madame est endormie. » Le lendemain, Véronique partit à cheval, accompagnée de Maurice seulement. Pour se rendre rapidement à la Roche-Vive, elle prit le chemin par lequel elle en était revenue la veille. En montant par le fond de la gorge qui séparait ce pic de la dernière colline de la forêt, car vue de la plaine, la Roche-Vive semblait isolée. Véronique dit à Maurice de lui indiquer la maison de Farabèche et de l'attendre en gardant les chevaux. Elle voulut aller seule. Maurice la conduisit donc vers un sentier qui descend sur le versant de la Roche-Vive, opposé à celui de la plaine. et lui montra le toit en chaume d'une habitation presque perdue, à moitié de cette montagne, et au bas de laquelle s'étendent des pépinières. Il était alors environ midi. Une fumée légère qui sortait de la cheminée indiquait la maison auprès de laquelle Véronique arriva bientôt. Mais elle ne se montra pas tout d'abord. À l'aspect de cette modeste demeure, assise au milieu d'un jardin entouré d'une haie en épines sèches, elle resta pendant quelques instants perdue en des pensées qui ne furent connues que d'elle. Au bas du jardin serpentent quelques arpents de prairie enclosent d'une haie vive, et où, çà et là, s'étalent les têtes aplaties des pommiers, des poiriers et des pruniers. Au-dessus de la maison, vers le haut de la montagne, où le terrain devient sablonneux, s'élèvent les cimes jaunies d'une superbe châtaigneraie. En ouvrant la porte à claire-voie, faite en planches presque pourries, qui sert de clôture, Madame Grasselin aperçut une étable, une petite basse-cour, et tous les pittoresques, les vivants accessoires des habitations du pauvre, qui certes ont de la poésie au champ. Quel être a pu voir sans émotion les linges étendus sur la haie, la botte d'oignon pendue au plancher, les marmites en fer qui sèchent, le banc de bois ombragé de chèvrefeuilles, et les joubarbes sur le faîte du chaume qui accompagne presque toutes les chaumières en France et qui révèle une vie humble, presque végétative. Il fut impossible à Véronique d'arriver chez son garde sans être aperçue. Deux beaux chiens de chasse aboyèrent aussitôt que le bruit de son amazone se fit entendre dans les feuilles sèches. Elle prit la queue de cette large robe sous son bras et s'avança vers la maison. Farabèche et son enfant, qui étaient assis sur un banc de bois en dehors, se levèrent et se découvrirent tous deux, en gardant une attitude respectueuse, mais sans la moindre apparence de servilité. « J'ai su, dit Véronique en regardant avec attention l'enfant, que vous preniez mes intérêts. J'ai voulu voir par moi-même votre maison, les pépinières, et vous questionner ici même sur les améliorations à faire. Je suis aux ordres de madame, répondit Farabèche. Véronique admira l'enfant, qui avait une charmante figure, un peu hâlée, brune, mais très régulière, un ovale parfait, un front purement dessiné, des yeux oranges d'une vivacité excessive, des cheveux noirs, coupés sur le front et longs de chaque côté du visage. Plus grand que ne l'est ordinairement un enfant de cet âge, ce petit avait près de 5 pieds. Son pantalon était comme sa chemise, en grosse toile écrue. Son gilet de gros drap bleu très usé avait des boutons de corne. Il portait une veste de ce drap, si plaisamment nommée velours de Maurienne, et avec lequel s'habillent les Savoyards, de gros souliers ferrés et point de bas. Ce costume était exactement celui du père. Seulement, Farabèche avait sur la tête un grand feutre de paysan, et le petit avait sur la sienne un bonnet de laine brune. Quoique spirituel et animé, la physionomie de cet enfant gardait, sans effort, la gravité particulière aux créatures qui vivent dans la solitude. Il avait dû se mettre en harmonie avec le silence et la vie des bois. Aussi Farabèche et son fils étaient-ils surtout développés du côté physique. Ils possédaient les propriétés remarquables des sauvages. Une vue perçante, une attention constante, un empire certain sur eux-mêmes, l'ouïe sûre, une agilité visible, une intelligente adresse. Au premier regard que l'enfant lança sur son père, Madame Grasselin devina une de ces affections sans bornes, où l'instinct s'est trempé dans la pensée, et où le bonheur le plus agissant confirme et le vouloir de l'instinct et l'examen de la pensée. Voilà l'enfant dont on m'a parlé, dit Véronique en montrant le garçon. Oui, madame. Vous n'avez donc fait aucune démarche pour retrouver sa mère ? Demanda Véronique à Farabèche, en l'emmenant à quelques pas par un signe. Madame ne sait sans doute pas qu'il m'est interdit de m'écarter de la commune sur laquelle je réside. Et n'avez-vous jamais eu de nouvelles ? À l'expiration de mon temps, répondit-il, le commissaire me remit une somme de 1000 francs, qui m'avait été envoyée par petites portions, de 3 en 3 mois, et que les règlements ne permettaient pas de me donner avant le jour de ma sortie. J'ai pensé que Catherine pouvait seule avoir songé à moi, puisque ce n'était pas M. Bonnet. Aussi ai-je gardé cette somme pour Benjamin. Et les parents de Catherine ? Ils n'ont plus pensé à elle après son départ. D'ailleurs, ils ont fait assez en prenant soin du petit. « Eh bien, Farabèche, » dit Véronique en se retournant vers la maison, « je ferai en sorte de savoir si Catherine vit encore, où elle est et quel est son genre de vie. « Oh, quel qu'il soit, madame !» s'écria doucement cet homme. « Je regarderai comme un bonheur de la voir pour femme. C'est à elle à se montrer difficile, et non à moi. Notre mariage légitimerait ce pauvre garçon, qui ne soupçonne pas encore sa position. » Le regard que le père jeta sur le fils expliquait la vie de ces deux êtres abandonnés ou volontairement isolés. Ils étaient tout l'un pour l'autre, comme deux compatriotes jetés dans un désert. « Ainsi vous aimez Catherine ?» demanda Véronique. « Je ne l'aimerais pas, madame, » répondit-il, « que dans ma situation. Elle est pour moi la seule femme qu'il y ait dans le monde. » Madame Grasselin se retourna vivement et alla jusque sous la châtaigneraie, comme atteinte d'une douleur. Le garde crut qu'elle était saisie par quelque caprice et n'osa la suivre. Véronique resta là pendant un quart d'heure environ, occupée en apparence à regarder le paysage. De là, elle apercevait toute la partie de la forêt qui meuble ce côté de la vallée où coule le torrent, alors sans eau, plein de pierres, et qui ressemblait à un immense fossé, serré entre les montagnes boisées dépendant de Montaignac et une autre chaîne de collines parallèles, mais rapides, sans végétation, à peine couronnée de quelques arbres malvenus. Cette autre chaîne où croissent quelques bouleaux, des genévriers et des bruyères d'un aspect assez désolé, appartient à un domaine voisin et au département de la Corrèze. Un chemin vicinal qui suit les inégalités de la vallée sert de séparation à l'arrondissement de Montaignac et aux Deux-Terres. Ce revers assez ingrat, mal exposé, soutient, comme une muraille de clôture, une belle partie de bois qui s'étend sur l'autre versant de cette longue côte, dont l'aridité forme un contraste complet avec celle sur laquelle est assise la maison de Farabèche. D'un côté, des formes âpres et tourmentées, de l'autre des formes gracieuses, des sinuosités élégantes. D'un côté, l'immobilité froide et silencieuse de terres infécondes, maintenues par des blocs de pierres horizontaux, par des roches nues et pelées. De l'autre, des arbres de différents verts, en ce moment dépouillés de feuillage pour la plupart, mais dont les beaux troncs droits et diversement colorés s'élancent de chaque pli de terrain et dont les branchages se remuaient alors au gré du vent. Quelques arbres plus persistants que les autres, comme les chênes, les ormes, les hêtres, les châtaigniers, conservaient des feuilles jaunes, bronzées ou violacées. Vers Montaignac, où la vallée s'élargit démesurément, Les deux côtes forment un immense fer à cheval. Et de l'endroit où Véronique était allée s'appuyer sur un arbre, elle put voir des vallons disposés comme les gradins d'un amphithéâtre, où les cimes des arbres montent les unes au-dessus des autres, comme des personnages. Ce beau paysage formait alors le revers de son parc, où depuis il fut compris. Du côté de la chaumière de Farabèche, la vallée se rétrécit de plus en plus, et finit par un col d'environ 100 pieds de large. La beauté de cette vue, sur laquelle les yeux de Madame Grasselin erraient machinalement, la rappela bientôt à elle-même. Elle revint vers la maison, où le père et le fils restaient debout et silencieux, sans chercher à s'expliquer la singulière absence de leur maîtresse. Elle examina la maison, qui, bâtie avec plus de soin que la couverture en chaume ne le faisait supposer, avait été sans doute abandonnée depuis le temps où les Navarreins ne s'étaient plus souciés de ce domaine. Plus de chasse, plus de garde. Quoique cette maison fût inhabitée depuis plus de 100 ans, les murs étaient bons. Mais de tous côtés, le lierre et les plantes grimpantes les avaient embrassés. Quand on lui eut permis d'y rester, Farabèche avait fait couvrir le toit en chaume. Il avait dallé lui-même à l'intérieur la salle et y avait apporté tout le mobilier. Véronique, en entrant, aperçut deux lits de paysans, une grande armoire en noyer, une huche au pain, un buffet, une table, 3 chaises, et sur les planches du buffet, quelques plats en terre brune. Enfin, les ustensiles nécessaires à la vie. Au-dessus de la cheminée étaient 2 fusils et 2 carniers. Une quantité de choses faites par le père pour l'enfant causa le profond attendrissement à Véronique. Un vaisseau armé, une chaloupe, une tasse en bois sculpté, une boîte en bois d'un magnifique travail, un coffret en marqueterie de paille, un crucifix et un chapelet superbe. Le chapelet était en noyau de prune, qui avait sur chaque face une tête d'une admirable finesse. Jésus-Christ, les apôtres, la Madone, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Sainte Anne, les 2 Madeleines. Je fais cela pour amuser le petit, dans les longs soirs d'hiver, dit-il en ayant l'air de s'excuser. Le devant de la maison est planté en jasmin, en rosiers à haute tige appliqués contre le mur, et qui fleurissent les fenêtres du premier étage inhabité. Mais où Farabèche serrait ses provisions. Il avait des poules, des canards, 2 porcs. Il n'achetait que du pain, du sel, du sucre, et quelques épiceries. Ni lui ni son fils ne buvaient de vin. Tout ce que l'on m'a dit de vous, et ce que je vois, dit enfin Madame Grasselin à Farabèche, me fait vous porter un intérêt qui ne sera pas stérile. Je reconnais bien là Monsieur Bonnet, s'écria Farabèche d'un ton touchant. Vous vous trompez. Monsieur le curé ne m'a rien dit encore. Le hasard, ou Dieu peut-être, a tout fait. Oui, madame, Dieu. Dieu seul peut faire des merveilles pour un malheureux tel que moi. Si vous avez été malheureux, dit Madame Grasselin, assez bas pour que l'enfant n'entendît rien, par une attention d'une délicatesse féminine qui toucha Farabèche. Votre repentir, votre conduite et l'estime de Monsieur le curé vous rendent digne d'être heureux. J'ai donné les ordres nécessaires pour terminer les constructions de la grande ferme que M. Grasselin avait projeté d'établir auprès du château. Vous serez mon fermier. Vous aurez l'occasion de déployer vos forces, votre activité, d'employer votre fils. Le procureur général à Limoges apprendra qui vous êtes, et l'humiliante condition de votre banc, qui gêne votre vie, disparaîtra. Je vous le promets. À ces mots, Farabèche tomba sur ses genoux, comme foudroyé par la réalisation d'une espérance vainement caressée. Il baisa le bas de l'Amazone de Madame Grasselin. Il lui baisa les pieds. En voyant des larmes dans les yeux de son père, Benjamin se mit à sangloter, sans savoir pourquoi. « Relevez-vous, Farabèche, » dit Madame Grasselin. « Vous ne savez pas combien il est naturel que je fasse pour vous ce que je vous promets de faire. N'est-ce pas vous qui avez planté ces arbres verts ? » dit-elle en montrant quelques épicéas, des pins du nord, des sapins et des mélèzes au bas de l'aride et sèche colline opposée. « Oui, madame. La terre est donc meilleure là ? Les eaux dégradent toujours ces rochers et mettent chez vous un peu de terre meuble. J'en ai profité, car tout le long de la vallée, ce qui est en dessous du chemin vous appartient. Le chemin sert de démarcation. Coule-t-il donc beaucoup d'eau au fond de cette longue vallée ? Oh, madame, s'écria Farabèche, dans quelques jours, quand le temps sera devenu pluvieux, peut-être entendrez-vous du château mugir le torrent. Mais rien n'est comparable à ce qui se passe au temps de la fonte des neiges. Les eaux descendent des parties de forêt situées au revers de Montaignac, de ces grandes pentes adossées à la montagne, sur laquelle sont vos jardins et le parc. Enfin, toutes les eaux de ces collines y tombent et font un déluge. Heureusement pour vous, les arbres retiennent les terres. L'eau glisse sur les feuilles, qui sont en automne, comme un tapis de toile cirée. Sans cela, le terrain s'exhausserait au fond de ce vallon. Mais la pente est aussi bien rapide, et je ne sais pas si des terres entraînées y resteraient. « Où vont les eaux ? » demanda Madame Grasselin, devenue attentive. Farabèche montra la gorge étroite, qui semblait fermer ce vallon au-dessus de sa maison. Elles se répandent sur un plateau crayeux qui sépare le Limousin de la Corrèze et y séjournent en flaques vertes pendant plusieurs mois. Elles se perdent dans les pores du sol, mais lentement. Aussi personne n'habite-t-il cette plaine insalubre où rien ne peut venir. Aucun bétail ne veut manger les joncs ni les roseaux qui viennent dans ces eaux saumâtres. Cette vaste lande, qui a peut-être 3000 arpents, sert de communaux à 3 communes. Mais il en est comme de la plaine de Montaignac. On n'en peut rien faire. Encore chez vous, y a-t-il du sable et un peu de terre dans vos cailloux. Mais là, c'est du teuf tout pur. Envoyez chercher les chevaux. Je veux aller voir tout ceci par moi-même. Benjamin partit, après que Madame Grasselin lui eut indiqué l'endroit où se tenait Maurice. « Vous qui connaissez, m'a-t-on dit, les moindres particularités de ce pays, reprit Madame Grasselin. Expliquez-moi pourquoi les versants de ma forêt, qui regardent la plaine de Montaignac, n'y jettent aucun cours d'eau, pas le plus léger torrent, ni dans les pluies, ni à la fonte des neiges. « Ah, madame, dit Farabèche, monsieur le curé, qui s'occupe tant de la prospérité de Montaignac, en a deviné la raison, sans en avoir la preuve. Depuis que vous êtes arrivé, il m'a fait relever, de place en place, le chemin des eaux dans chaque ravine, dans chaque vallon. Je revenais hier du bas de la roche vive, où j'avais examiné les mouvements du terrain, au moment où j'ai eu l'honneur de vous rencontrer. J'avais entendu le pas des chevaux, et j'ai voulu savoir qui venait par ici. Monsieur Bonnet n'est pas seulement un saint, madame. C'est un savant. Farabèche, m'a-t-il dit. Je travaillais alors au chemin, que la commune achevait pour monter au château. De là, monsieur le curé me montrait toute la chaîne des montagnes, depuis Montaignac jusqu'à la roche vive, près de 2 lieues de longueur. Pour que ce versant n'épanche point d'eau dans la plaine, il faut que la nature ait fait une espèce de gouttière qui les verse ailleurs. Eh bien, madame, cette réflexion est si simple qu'elle en paraît bête. Un enfant devrait la faire. Mais personne, depuis que Montaignac est Montaignac, ni les seigneurs, ni les intendants, ni les gardes, ni les pauvres, ni les riches, qui, les uns comme les autres, voyaient la plaine inculte faute d'eau, ne se sont demandé où se perdaient les eaux du Gabou. Les trois communes qui ont les fièvres à cause des eaux stagnantes n'y cherchaient point de remède, et moi-même je n'y songeais point. Il a fallu l'homme de Dieu. Farabèche eut les yeux humides en disant ce mot. Tout ce que trouvent les gens de génie, dit alors Madame Grasselin, est si simple que chacun croit qu'il l'aurait trouvé. Mais, se dit-elle à elle-même, le génie a cela de beau qu'il ressemble à tout le monde, et que personne ne lui ressemble. Du coup, reprit Farabèche, je compris Monsieur Bonnet. Il n'eut pas de grandes paroles à me dire pour m'expliquer ma besogne. Madame, le fait est d'autant plus singulier que du côté de votre plaine, car elle est entièrement à vous, il y a des déchirures assez profondes dans les montagnes, qui sont coupées par des ravins et par des gorges très creuses. Mais, madame, toutes ces fentes, ces vallées, ces ravins, ces gorges, ces rigoles, enfin, par où coulent les eaux, se jettent dans ma petite vallée, qui est de quelques pieds plus basse que le sol de votre plaine. Je sais aujourd'hui la raison de ce phénomène. Et la voici. De la roche juive à Montaignac, il règne au bas des montagnes comme une banquette, dont la hauteur varie entre 20 et 30 pieds. Elle n'est rompue en aucun endroit, et se compose d'une espèce de roche que M. Bonnet nomme schiste. La terre, plus molle que la pierre, a cédé, s'est creusée. Les eaux ont alors naturellement pris leur écoulement dans le Gabou, par les échancrures de chaque vallon. Les arbres, les broussailles, les arbustes cachent à la vue cette disposition du sol. Mais après avoir suivi le mouvement des eaux et la trace que laisse leur passage, il est facile de se convaincre du fait. Le Gabou reçoit ainsi les eaux des deux versants, celle du revers des montagnes, en haut desquelles est votre parc, et celle des roches qui nous font face. D'après les idées de Monsieur le curé, cet état de choses cessera lorsque les conduits naturels du versant qui regarde votre plaine se boucheront par les terres, par les pierres que les eaux entraînent, et qu'ils seront plus élevés que le fond du Gabou. Votre plaine sera alors inondée comme le sont les communaux que vous voulez aller voir. Mais il faut des centaines d'années. D'ailleurs, est-ce à désirer, madame? Si votre sol ne buvait pas, comme fait celui des communaux, cette masse d'eau, Montaignac aurait aussi des eaux stagnantes qui empesteraient le pays. Ainsi, les places où monsieur le curé me montrait, il y a quelques jours, des arbres qui conservent leurs feuillages encore verts, doivent être les conduits naturels par où les eaux se rendent dans le torrent du Gabou. Oui, madame. De la roche juive à Montaignac, il se trouve trois montagnes, par conséquent trois cols, où les eaux, repoussées par la banquette de schiste, s'en vont dans le Gabou. La ceinture de bois encore vert qui est au bas, et qui semble faire partie de votre plaine, indique cette gouttière, devinée par monsieur le curé. Ce qui fait le malheur de Montaignac en fera bientôt la prospérité, dit avec un accent de conviction profonde Madame Grasselin. Et puisque vous avez été le premier instrument de cette œuvre, vous y participerez. Vous chercherez des ouvriers actifs, dévoués, car il faudra remplacer le manque d'argent par le dévouement et par le travail. Benjamin et Maurice arrivèrent au moment où Véronique achevait cette phrase. Elle saisit la bride de son cheval et fit signe à Farabèche de monter sur celui de Maurice. « Menez-moi, dit-elle, au point où les eaux se répandent sur les communaux. Il est d'autant plus utile que Madame y aille, dit Farabèche, que par le conseil de Monsieur le curé, feu Monsieur Grasselin est devenu propriétaire, au débouché de cette gorge de 300 arpents, sur lesquels les eaux laissent un limon qui a fini par produire de la bonne terre sur une certaine étendue. Madame verra le revers de la roche juive, sur lequel s'étendent des bois superbes, et où M. Grasselin aurait placé sans doute une ferme. L'endroit le plus convenable serait celui où se perd la source, qui se trouve auprès de ma maison et dont on pourrait tirer parti. Farabèche passa le premier pour montrer le chemin et fit suivre à Véronique un sentier rapide qui menait à l'endroit où les deux côtes se resserraient et s'en allaient l'une à l'est, l'autre à l'ouest, comme renvoyées par un choc. Ce goulet, rempli de grosses pierres, entre lesquelles s'élevaient de hautes herbes, avait environ 60 pieds de largeur. La roche juive, coupée à vif, montrait comme une muraille de granit, sur laquelle il n'y avait pas le moindre gravier. Mais le haut de ce mur inflexible était couronné d'arbres, dont les racines pendaient. Des pins y embrassaient le sol de leurs pieds fourchus, et semblaient se tenir là, comme des oiseaux accrochés à une branche. La colline opposée, creusée par le temps, avait un front sourcilleux, sablonneux et jaune. Elle montrait des cavernes peu profondes, des enfoncements sans fermeté. Sa roche molle et pulvérulente offrait des tons d'ocre. Quelques plantes à feuilles piquantes, au bas quelques bardanes, des joncs, des plantes aquatiques, indiquaient et l'exposition au nord et la maigreur du sol. Le lit du torrent était en pierre assez dure, mais jaunâtre. Évidemment, les deux chaînes, quoique parallèles, et comme fendues au moment de la catastrophe qui a changé le globe, étaient, par un caprice inexplicable, ou par une raison inconnue et dont la découverte appartient au génie, composées d'éléments entièrement dissemblables. Le contraste de leurs deux natures éclatait surtout en cet endroit. De là, Véronique aperçut un immense plateau sec, sans aucune végétation, crayeux, ce qui expliquait l'absorption des eaux, et parsemé de flaques d'eau saumâtre ou de places où le sol était écaillé. À droite, se voyaient les monts de la Corrèze. À gauche, la vue s'arrêtait sur la bosse immense de la roche juive, chargée des plus beaux arbres, et au bas de laquelle s'étalait une prairie d'environ 200 arpents, dont la végétation contrastait avec lui deux aspects de ce plateau désolé. « Mon fils et moi avons fait le fossé que vous apercevez là-bas, » dit Farabèche, « et que vous indique de hautes herbes. Il va rejoindre celui qui limite votre forêt. De ce côté, vos domaines sont bornés par un désert, car le premier village est à une lieue d'ici. » Véronique s'élança vivement dans cette horrible plaine, où elle fut suivie par son garde. Elle fit sauter le fossé à son cheval, courut à bride abattue dans ce sinistre paysage, et parut prendre un sauvage plaisir à contempler cette vaste image de la désolation. Farabèche avait raison. Aucune force, aucune puissance ne pouvait tirer parti de ce sol. Il résonnait sous le pied des chevaux comme s'il eût été creux. Quoique cet effet soit produit par les craies naturellement poreuses, il s'y trouvait aussi des fissures par où les eaux disparaissaient, et s'en allaient alimenter sans doute des sources éloignées. « Il y a pourtant des âmes qui sont ainsi, » s'écria Véronique, en arrêtant son cheval après avoir galopé pendant un quart d'heure. Elle resta pensive au milieu de ce désert, où il n'y avait ni animaux ni insectes, et que les oiseaux ne traversaient point. Au moins dans la plaine de Montaignac se trouvaient-ils des cailloux, des sables, quelques terres meubles ou argileuses, des débris, une croûte de quelques pouces où la culture pouvait mordre. Mais là, le teuf le plus ingrat, qui n'était pas encore la pierre et n'était plus la terre, brisait durement le regard. Aussi, là, fallait-il absolument reporter ses yeux dans l'immensité de l'éther. Après avoir contemplé la limite de ses forêts et la prairie achetée par son mari, Véronique revint vers l'entrée du gabou mais lentement. Elle surprit alors Farabèche regardant une espèce de fosse, qui semblait faire croire qu'un spéculateur avait essayé de sonder ce coin désolé, en imaginant que la nature y avait caché des richesses. « Qu'avez-vous ? » lui dit Véronique, en apercevant sur cette mâle figure une expression de profonde tristesse. « Madame, je dois la vie à cette fosse. Ou, pour parler avec plus de justesse, le temps de me repentir et de racheter mes fautes aux yeux des hommes. » Cette façon d'expliquer la vie eut pour effet de clouer Madame Graslin devant la fosse, où elle arrêta son cheval. « Je me cachais là, madame. Le terrain est si sonore que l'oreille appliquée contre la terre, je pouvais entendre à plus d'une lieue les chevaux de la gendarmerie, ou le pas des soldats, qui a quelque chose de particulier. Je me sauvais par le gabou, dans un endroit où j'avais un cheval. » Et je mettais toujours entre moi et ceux qui étaient à ma poursuite des 5 ou 6 lieues. Catherine m'apportait à manger là, pendant la nuit. Si elle ne me trouvait point, j'y trouvais toujours du pain et du vin, dans un trou couvert d'une pierre. Ce souvenir de sa vie errante et criminelle, qui pouvait nuire à Farabèche, trouva la plus indulgente pitié chez Madame Graslin. Mais elle s'avança vivement vers le gabou, où la suivit le garde. Pendant qu'elle mesurait cette ouverture, à travers laquelle on apercevait la longue vallée, si riante d'un côté, si ruinée de l'autre, et, dans le fond, à plus d'une lieue, les collines étagées du revers de Montaignac, Farabèche dit « Dans quelques jours, il y aura là de fameuses cascades. Et l'année prochaine, à pareil jour, jamais il ne passera plus par là une goutte d'eau. Je suis chez moi de l'un et l'autre côté. Je ferai bâtir une muraille, assez solide, assez haute pour arrêter les eaux. Au lieu d'une vallée qui ne rapporte rien, j'aurai un lac de 20, 30, 40 ou 50 pieds de profondeur, sur une étendue d'une lieue, un immense réservoir, qui fournira l'eau des irrigations, avec laquelle je fertiliserai toute la plaine de Montaignac. Monsieur le curé avait raison, madame, quand il nous disait, lorsque nous achevions votre chemin, « Vous travaillez pour votre mère. Que Dieu répande ses bénédictions sur une pareille entreprise. » « Taisez-vous là-dessus, Farabèche, » dit Madame Graslin. « La pensée en est à Monsieur Bonnet. » Revenu à la maison de Farabèche, Véronique y prit Maurice et retourna promptement au château. Quand sa mère et Aline aperçurent Véronique, elles furent frappées du changement de sa physionomie. L'espoir de faire le bien de ce pays lui avait rendu l'apparence du bonheur. Madame Graslin écrivit à grosse tête de demander à Monsieur de Granville la liberté complète du forçat libéré, sur la conduite duquel elle donna des renseignements qui furent confirmés par un certificat du maire de Montaignac et par une lettre de M. Bonnet. Elle joignit à cette dépêche des renseignements sur Catherine Curieux, en priant grosse tête d'intéresser le procureur général à la bonne action qu'elle méditait, et de faire écrire à la préfecture de police de Paris pour retrouver cette fille. La seule circonstance de l'envoi des fonds au bagne, où Farabèche avait subi sa peine, devait fournir des indices suffisants. Véronique tenait à savoir pourquoi Catherine avait manqué à venir auprès de son enfant et de Farabèche. Puis elle fit part à son vieil ami de ses découvertes au torrent du gabou et insista sur le choix de l'homme habile qu'elle lui avait déjà demandé. Le lendemain était un dimanche, et le premier où depuis son installation à Montaignac, Véronique se trouvait en état d'aller entendre la messe à l'église. Elle y vint et prit possession du banc qu'elle y possédait à la chapelle de la Vierge. En voyant combien cette pauvre église était dénuée, elle se promit de consacrer chaque année une somme aux besoins de la fabrique et à l'ornement des autels. Elle entendit la parole douce, onctueuse, angélique du curé, dont le prône, quoique dit en termes simples et à la portée de ses intelligences, fut vraiment sublime. Le sublime vient du cœur. L'esprit ne le trouve pas. Et la religion est une source intarissable de ce sublime sans faux brillant. Car le catholicisme, qui pénètre et change les cœurs, est au cœur. M. Bonnet trouva dans l'épître un texte à développer qui signifiait que tôt ou tard, Dieu accomplit ses promesses, favorise les siens et encourage les bons. Il fit comprendre les grandes choses qui résulteraient pour la paroisse de la présence d'un riche charitable, en expliquant que les devoirs du pauvre étaient aussi étendus envers le riche bienfaisant que ceux du riche l'étaient envers le pauvre. Leur aide devait être mutuelle. Farabèche avait parlé à quelques-uns de ceux qui le voyaient avec plaisir, par suite de cette charité chrétienne que M. Bonnet avait mise en pratique dans la paroisse. De la bienveillance dont il était l'objet, la conduite de Mme Grasselin envers lui venait d'être le sujet des conversations de toute la commune, rassemblée sur la place de l'église avant la messe, suivant l'usage des campagnes. Rien n'était plus propre à concilier à cette femme l'amitié de ses esprits, éminemment susceptibles. Aussi, quand Véronique sortit de l'église, trouva-t-elle presque toute la paroisse rangée en deux haies. Chacun, à son passage, la salua respectueusement dans un profond silence. Elle fut touchée de cet accueil, sans savoir quel en était le vrai motif. Elle aperçut Farabèche, un des derniers, et lui dit « Vous êtes un adroit chasseur, n'oubliez pas de nous apporter du gibier. » Quelques jours après, Véronique alla se promener avec le curé, dans la partie de la forêt qui avoisinait le château, et voulut descendre avec lui les vallées étagées qu'elle avait aperçues de la maison de Farabèche. Elle acquit alors la certitude de la disposition des hauts affluents du Gabou. Par suite de cet examen, le curé remarqua que les eaux qui arrosaient quelques parties du Haut-Montaignac venaient des monts de la Corrèze,